Moi, je ne sais pas, je serai sans doute à la fois assis et à la fois debout, mais en tous les cas, je ferai le maximum pour être audible. Alors, je découvre ce soir que je dois conclure sur la thématique de l'amour du prochain. C'est un lourd fardeau que vous me donnez. C'est pas évident de conclure sur cette thématique. En plus, il s'avère que j'ai déménagé il y a 3 semaines à Genève. Donc, toutes mes idées, mes réflexions sont dans des cartons. Alors, je suis allé piocher l'année dernière dans ces cartons pour trouver des bribes d'idées qui me paraissaient intéressantes et que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Alors, c'est vrai que je suis travailleur social. Enfin, j'essaye d'être travailleur social. C'est vrai que le social, c'est avant tout le lien à l'autre que nous tentons de mettre en place. Vous avez travaillé, alors évidemment je ne vous cache rien, sur les origines bibliques de l'amour du prochain, Ve'ahavta le'reacha kamocha en hébreu, et tu aimeras comme nous traduisons vulgairement, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comme nous l'a rappelé mon père l'autre soir, il relevait un discours d'un dominicain lors d'une messe qui proclamait que je t'aime donc je te tue. Si je t'aime, Ve'ahavta le'reacha kamocha, si je dois t'aimer, j'aime mon prochain comme je m'aime. Si dans la mesure il ne me ressemble pas, je ne peux l'aimer. Et le texte biblique ne dit pas Ve'ahavta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. Alors je me suis amusé parce que j'adore faire ces exercices, ces gymnastiques cérébrales, d'ouvrir une concordance. Alors, il n'y en a pas qu'un 10 000, c'est celle de Salomon Medelken, la concordance que vous pouvez trouver dans toutes les bibliothèques. Et puis je suis allé piocher toutes les fois où il y a ce fameux « et » en hébreu. Je vais vous l'écrire. Alors si c'est écrit, évidemment, ça ne sera pas traduisible en MP3, mais je vais parler en même temps pour éviter les blancs. Parce que la radio, je connais. Donc ça, c'est j'écris en majuscule. Le « et » est l'accusatif. Ça correspond au complément d'objet direct défini, ce qui est intraduisible en français. Comme vous dites, quand vous dites « je mange le pain », en hébreu, on dira « ani ochel et alechem ». Je mange et alechem le pain. C'est-à-dire, dans la mesure où c'est l'accusatif, où la correspondance en fait est comprise déjà dans le verbe, lorsque vous mangez le pain, vous l'avez déjà digéré, il est déjà en vous. Lorsque je dis « je tape quelqu'un », entre guillemets, je le tape « anim arbit et auto ». C'est comme s'il était déjà en contact avec moi, comme si nous étions déjà en fusion, si je puis dire. Et ce « et » n'existe pas justement dans cette phrase du Lévitique. Nous sommes dans le chapitre 19, verset 18. « De ve'ahavta le'reacha kamocha » et tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. Et donc, je me suis amusé à relever les fois où le « et » apparaissait dans le texte biblique. Je parle de Bible, qui comprend donc Torah, Nevi'im, Ketuvim, c'est-à-dire le Pentateuque, les prophètes et les hagiographes, les Écritures. Quand je parlerai de Torah, je parlerai de Pentateuque, ou de la première partie de la Bible, sinon les textes bibliques, il s'agira donc probablement des versets que j'irai piocher, autant dans les prophètes que dans le Pentateuque. Et vous avez également ce lait, l'amed. Vous savez que dans le texte biblique, les voyelles n'existent pas. Vous ouvrez le parchemin des rouleaux de la loi, donc du Pentateuque, le texte n'est pas ponctué, et ça entraîne des homophonies, ou des homographies plutôt, plus que des homophonies. Alors ça, c'est le mot « être », l'accusatif. Si vous ouvrez un dictionnaire, non pas le Marcus Cone, mais vous ouvrez un Marchand Emery, que je vous conseille vivement d'acheter, le « être » va traduire soit l'accusatif, le complément d'objet direct, soit « avec ». Mais le lait signifie la direction, vers. Comme si je disais je vais à Paris, je vais les Paris. Si je traduisais seulement le vers en hébreu. Les. Et c'est ce les que vous retrouvez dans la phrase du Lévitique qui tu aimeras ton prochain. Ve'ata les re'acha kamocha. Et tu aimeras les vers, re'acha, étymologiquement. Réacha vient du mot rat, qui veut dire à la fois le mal, mais dans le sens logatif du terme, c'est-à-dire le lointain, et kamocha, qui signifie comme, mocha comme toi, ou comme de toi, comme ce qui sort de toi. Et tu aimeras pour lui. Vous n'êtes pas en lui, mais vous allez vers lui. C'est cet élan que désigne le texte. Alors vous avez effectivement dans les relations humaines qu'évoque le texte biblique, vous avez soit l'un, soit l'autre. Je vous donne un exemple. Dans la Genèse, quand Dieu dit « Et tu quitteras ton père et ta mère, et ta vie va être dix mots, tu quitteras ton père et ta mère, et d'avag bifto, tu t'attacheras à ton épouse. » Attaché, entre guillemets, je fais une traduction littérale. « Et avi va être dix mots. » Là, on peut parler de cordon ombilical. Là, on peut parler de fusion. Et donc, comme disait Quentin Vinguely, je quitte mon père, je quitte ma mère, éventuellement, il ne s'agissant pas que des mères juives, mais des mères tout court. Je quitte ma mère, je quitte mon père, parfois ça demande des années de psychanalyse, et je m'attache à mon épouse. Védavac, Béisso, non pas pour faire qu'un, contrairement à toutes les bêtises qu'on peut entendre, car il ne s'agit pas d'effacement d'un partenaire, il ne s'agit pas de fusion, mais il s'agit de complémentarité, d'être partenaire, d'être ensemble, comme disait le poète, de voir dans la même direction, dans la mesure du possible, mais pour être ensemble, d'être à deux et de faire la route à deux, et de rester deux, chacun avec son jardin, je ne vais pas faire de psychanalyse maintenant. Il s'agit donc de quitter et avive et timo, et là nous avons l'accusatif. Nous avons ce transitif, ce complément d'objet direct, écrit plus haut. Ve'ata la've'acha kamocha ne s'agit pas de fusion. En tant que travailleur social, c'est de ça dont il s'agit, le garant de la forme que représente un travailleur social, garant de la forme, tant analogique que verbale, parce que je dois inspirer un cadre qui permet justement à la personne dont j'ai la charge d'être autonome, d'être acteur de sa vie, ce qu'on appelle dans le domaine de la santé l'empowerment, qui permet justement à l'être dont j'ai la charge, dont j'ai la responsabilité de pouvoir avancer sereinement à son tour, selon ses besoins, ses désirs, ses envies, et non pas les miens, que je clonerai consciemment ou inconsciemment. On est dans justement cette dualité de l'identité et de l'identification. Combien de parents frustrés essaient justement d'assouvir leur fantasme dans leur enfant. On aura l'occasion d'en reparler. Là, il s'agit d'être avec. Et d'être avec, j'ai pas envie évidemment d'épiloguer longuement sur Ve'ata la've'acha kamocha, parce que je pense que les anciens et les rabbins qui sont passés sont bien plus érudits et ont pu partager la réflexion à cet égard. J'ai pris les livres que j'avais sous la main et j'ai voulu prendre un texte du Talmud. Alors, si j'ai essayé brièvement, parce qu'on m'a accordé une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Jusqu'à minuit. Ça va être difficile, hein. Alors j'ai pris un texte du Talmud, un texte, si vous voulez les références, c'est Baba Metzia, le folio 62, page 1. parce que les textes talmudiques, vous savez que le Talmud est un texte qui a été élaboré entre plus 200 et plus 500, a été écrit en Babylonie. Il y a deux Talmuds d'ailleurs, correspondent donc à la tradition orale, même si c'est écrit, mais il s'agit de la tradition orale, de l'oralité qui permet justement de faire un éclairage de la quotidienneté de la lumière divine, des textes écrits. Et en tant qu'être humain, rabbin ou pas, peu importe, tout être humain, nous sommes donc médiateurs. Nous avons la fonction justement de sensibiliser le texte divin, la loi écrite, la tradition écrite, si on parle du terme de loi, pour permettre d'éclairer et donner du sens. Le sens, d'ailleurs, en hébreu, se traduit ta'am, qui veut dire goûter. On comprend souvent les choses, d'ailleurs, ce que fait un enfant pour comprendre. Il commence par la bouche. Et alors, je donne du sens aux choses par la tradition orale. L'oralité a donc pour fonction de comprendre, de réexpliquer. Le Talmud n'est pas une législation, mais avant tout une discussion où des maîtres discutent, comme nous le faisons dans les yeshivot. Et puis nous tentons donc d'éclairer et de comprendre les textes bibliques. Et j'ai ouvert mon texte sur un des traités qui a été donc élaboré à cette époque, en Babylonie, où nous avons deux maîtres, l'un qui s'appelle Ben Petura, l'autre Rabbi Akiva. Vous connaissez sans doute ce Rabbi Akiva qui a vécu dans les années 0. C'était un auteur de la Mishnah, un fils de converti d'ailleurs, un des plus grands maîtres que la Mishnah, que le début de Talmud est connu. Et il parle d'un verset célèbre qui se trouve également dans Lévitique, et je voulais mettre mon doigt là-dessus. Dans Lévitique, on l'a vu pas plus tard que la semaine dernière, nous sommes dans le chapitre 25, verset 36. Lévitique 25, 36. Saltikat mitone shavetardi de retamilo kecha vechei achicha imar, évidemment je vais vous traduire. N'accepte de sa part ni intérêt ni profit, mais crains ton Dieu, virgule, et que ton frère vive avec toi. Et que ton frère vive avec toi. Il y a trois pages dans le Talmud. Évidemment, les commentaires, je ne les ai pas ici. Les commentateurs du XIIe siècle, ou les exégèses bibliques du XIIe siècle, sont évidemment très très longs à cet égard. Mais que signifie « et qu'il vive avec toi » Et alors, ce fameux Ben Petura, qui lui est un Amora, un auteur du Talmud, nous raconte une histoire célèbre, dont la source est ici. Deux personnes qui marchent sur le chemin, et on parle entre parenthèses du désert, Ubeyad et Khadmen, et je vais traduire directement, ça sera plus simple et on gagnera du temps, et l'un d'eux a une gourde d'eau. Et figurez-vous que si les deux boivent de cette gourde, parce qu'il fait chaud, parce qu'ils sont dans le désert, il ne leur reste qu'une seule gourde, si les deux boivent, les deux meurent. Par contre, si l'un des deux boit de cette gourde, eh bien, c'est intéressant d'ailleurs en hébreu, Magia l'échoue, il méritera de s'installer, de s'établir. Si je pouvais traduire rapidement, vulgairement, brièvement, je dirais, il vivra. Et alors, le Ben Petora nous dit, c'est son nom, hein, comme je l'appelle Ackerman, il s'appelle Ben Petora, nous dit que il est mieux que les deux boivent de cette eau et qu'ils meurent. Comme ça, aucun des deux n'aura, la Yéra n'aura la crainte de la mort de l'autre, de voir l'autre mourir. Postulat donc de Ben Petora, dont les commentaires disent, c'est à partir de ce verset, le Chai Imach, qu'il vive avec toi, Ben Pétoral traduira comme toi véritablement. Si toi tu dois voir, lui doit voir. Donc il est préférable que les deux meurent. Ils partageront la gourde, mais ils pourront survivre. Rabbi Akiva nous dit, celui qui a la gourde doit boire à cause de ce verset. Et tu aimeras ton prochain pour ton prochain comme toi-même. Mais pas plus que ton prochain. Il faut aimer son prochain, mais pas plus, nous dit le texte. Je ne fais que répéter. Pas plus que mon prochain. Autrement dit, je dois. Aujourd'hui, on parle d'empathie. Je suis des formations tout le temps en cancérologie, etc. Sur l'empathie, comment être en lien avec l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire être en lien avec l'autre? Où je campe, où je suis par rapport à l'autre? Évidemment, on ne parle pas de fusion, de cette fusion, de cet effacement de partenaire, parce que je dois être justement le garant d'une certaine sérénité. Mais non pas au détriment de lui, et non pas au détriment de moi. J'aide dans la mesure où je peux m'épanouir, comme lui peut s'épanouir dans ce que lui souhaite être, devenir. Je le respecte, je respecte son chemin, et je dois, dans les mêmes exigences, j'ai de l'exigence vis-à-vis de lui, je dois en avoir aussi vis-à-vis de moi. Le sacrifice ici n'existe pas. C'est pas ça l'amour du prochain. C'est pas le sacrifice. J'ai un professeur d'ailleurs, quand j'étais gamin, qui disait être bon c'est écrire avec un B, pas avec un C. Ben c'est pas totalement faux. Ça veut dire quoi? C'est ça veut dire quoi aider son prochain? Quelle est ma position vis-à-vis de lui? Il nous dit les maximes de nos pères, c'est un traité de la Mishnah, donc au début du Talmud, parce que vous savez que quand on parle au Talmud, le Talmud, c'est à la fois la Mishnah et la Gemara, des textes qui ont été écrits en plus de 100, qui ont démarré oralement avec une transmission orale de maître à élève, de parent à enfant, en moins de 300, à partir de Simon le Juste. Moins 300, c'est l'époque la fin des Hashmonaïm, les Osmonéens. Simon le Juste était un grand prêtre, qui avait été, je crois, l'un des derniers de l'école de Ezra, un grand tribunal qui siégeait donc au temple. À partir de Simon le Juste, on est donc au début de l'histoire de la tradition orale, du Talmud, jusqu'à plus de 200, jusqu'à le fameux Rabbi Yehuda Hanassi, qui lui, justement, a concocté, a réuni ses élèves, à l'instar des écoles de la Renaissance, parce qu'il n'était pas tout seul à écrire la Mishnah, il y était plusieurs, il y avait le spécialiste des arbres, le spécialiste du ciel, le spécialiste c'est un peu du même acabit, ce fameux Rabbi qu'on appelle Rabbi, qui est le diminutif de Rabbi Yehuda Hanassi, donc était l'auteur de la Mishnah. Mais il a écrit avec ses amis, les maîtres de l'époque, essentiellement des Yavnés, et a produit, a écrit, donc a pris le gauche, parce qu'on n'avait pas le droit d'écrire, vu que c'était censé rester une tradition orale, a pris le gauche d'écrire pour différentes raisons, pogroms, les guerres, les choses éperdées, etc. La Mishnah, donc, est écrite en plus de 100, je fais juste une petite parenthèse historique, et la Gemara, donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le Talmud, en fait, le Talmud englobe les deux, et ce qu'on appelle aujourd'hui le Talmud, c'est la Gemara. Et le Talmud va commencer de plus de 100 jusqu'à plus de 500. Il sera écrit autant en Israël, en Palestine, de l'époque qu'en Babylonie. Et ce n'est pas le Talmud de Jérusalem qui fait force de loi, qui fait foi, mais c'est le Talmud de Babylonie, celui qui a été élaboré en Babylonie, à Pumbabita, Naharia, etc. Rabbeinu et Ravashi, ce sont les auteurs donc de la Gemara, texte qui a été écrit en araméen, que j'ai ici, qui est ponctué d'ailleurs par un contemporain, Rajan Blatt, que vous avez sans doute peut-être aperçu dans les émissions du dimanche matin. Et je pioche donc ce texte dans la Gemara, et celui que je vais vous citer se trouve dans la Mishnah, donc dans ces textes du 3e siècle. Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Nous avons dans le premier chapitre un passage fort intéressant. Alors, si vous avez un tartipoulis, je crois qu'il y en a ça, mais ça vous donne bien. Alors, nous sommes dans le passage, dans le premier chapitre, le passage 13 de Maxime de Notaire, 13e Mishnah, comme on parle de verset dans la Bible, chapitre et verset, dans la Mishnah, on parle de chapitre et Mishnah. Donc, le chapitre numéro 1, Mishnah numéro 14. Hillel. Hillel, un contemporain d'ailleurs de Rabbi Akiva, nous sommes à l'époque romaine, l'an zéro, disait encore, si je n'ai pas soin de moi, qui donc aura soin de moi? Il haine Anili, Nili. Si je ne prends pas, si je ne suis pas, il haine Anili, si je ne suis pas pour moi, Nili, qui le fera? Si je ne prends pas soin de moi, qui donc aura soin de moi? Et si je prends soin de moi, qui suis-je? Que suis-je? Et si ce n'est pas maintenant que je me pose la question, quand pourrais-je le faire? Passage merveilleux. C'est très bizarre d'ailleurs que dans la Mishnah, vous avez un traité de morale. Ce qui est très très rare d'ailleurs dans les textes talmudiques. Toutes les maximes de nos pères font partie de cette réunification, de l'écriture de Rabbi Yehuda Hanassi. Et il n'y a que ce texte, cette Mishnah, qui est moral. Moral, éthique. J'ai un deuxième texte que je vous citerai tout à l'heure, fort intéressant. Et là, effectivement, on montre un index sur la personne, sur le sujet lui-même. Parce qu'il est important de se regarder, pouvoir regarder l'autre. Autant j'ai besoin de l'autre pour me réaliser. Comme, d'ailleurs, enfin, j'aime beaucoup la sociologie, théorème de confirmer, le sujet est à la fois individuel et collectif. C'est-à-dire que j'ai besoin du groupe, c'est le groupe qui valorise l'individu, évidemment pour autant que l'individu ne s'efface pas, comme ce fut le cas en Égypte, et inversement, l'individu a besoin de groupe pour avancer. L'ascétisme n'existe pas dans le judaïsme. On a fait des expériences d'ailleurs cliniques. Des enfants à qui on mettait les tubes pour les nourrir sur le plan social. Ces enfants mouraient parce qu'il n'y avait pas de contact humain. On en mettait tout à disposition pour pouvoir les voir grandir au niveau alimentaire. Et l'enfant ne résistait pas parce que le lien, justement, le lien social n'existait pas. Ce lien est fondamental. On le retrouve en sociologie, le père de la sociologie, c'est Marx, c'est Birkin, mais vous allez le retrouver tout au long de la Torah, dans ce message d'humanité, d'humanisme, où les mitzvot, les commandements, seront les outils qui permettront justement de promouvoir cet humanisme. On me donne une clé, et c'est ce que je veux partager ce soir avec vous. Alors, le lien à l'autre, Le lien à l'autre, c'est un lien évidemment de parole. La fonction de l'homme, justement, est de provoquer la parole, de faire en sorte que la parole existe, de permettre à l'autre d'exister, et d'écoute. C'est pour ça qu'en systémique, on parle souvent d'analogique, parce qu'on agit autant sur l'autre par les mots, par le verbal, que par nos gestes, par notre comportement, par nos attitudes. C'est pas des... à des médecins que je l'apprends, et il est vrai que l'écoute est fondamentale dans le texte de la Torah. Nous avons retrouvé cette idée de l'écoute, ce concept de l'écoute déjà dans le premier verset du schéma Israël, ce moment ultime de la prière matinale, également du soir, schéma Israël, cette écoute. Être écoute, il ne s'agit pas du verbe, mais du substantif, d'être écoute, c'est avant tout de pouvoir être en lien avec l'autre. Avant de parler, il faut pouvoir déjà être écoute, comme nous dit d'ailleurs Samuel, qui va commencer à prophétiser, mais la première fois où Dieu s'adresse à Samuel, il s'adresse à lui dans la nuit, dans les songes, il l'appelle, Samuel, Samuel. Et puis, bon, la première fois, il constate ce qui lui arrive, il va voir le prophète Élie pour lui dire qu'il a quelques soucis la nuit, et puis il le rassure, il dit, si tu entends une voix, ben, tu réponds. Et la nuit suivante, Samuel est à nouveau interpellé par l'Éternel, et Samuel de répondre, parle d'Aber qui chemait à Vera, car ton serviteur est écoute. Être écoute. C'est tout un programme dans la Torah. La bracha, c'est d'écouter. Nous avons également dans... Ça, c'est une très très belle référence. Samuel Cohen, le rabbin d'Amas, qui me disait un jour, on est dans Deutéronome, chapitre 11, verset 26-27, on dit... au début de la section de la péricope de Réhé. Quand Dieu dit, je vous ai mis la bénédiction et la malédiction face à vous, c'est marqué, Tabraha Shatishnu, la bénédiction que je vais vous apporter, si vous écoutez, eh bien, sera telle et telle. Et le rabbin Cohen me disait, non, il ne faut pas traduire Tabraha Shatishnu, qui est ici bibliquement, enfin c'est la traduction du consistoire, je vais vous citer la traduction, la bénédiction quand vous obéirez au commandement de l'Éternel sera ce qui suit. Et il m'a dit, non, il faut lire, et abracha shatishnou, la bénédiction, c'est d'écouter, c'est l'écoute. Si tu as l'écoute, alors tu as la bénédiction. Alors évidemment, c'est pas facile de rentrer en relation avec l'autre, c'est l'altérité. Comme c'est mésestimer l'écoute de l'autre que vouloir empêcher la parole et la force du ciel sur un être, quand on parle de médisance, quand je fais du lachonara en hébreu, de médisance, c'est pouvoir forcer le ciel sur quelqu'un, c'est mésestimer la capacité de l'autre à écouter, à être écoute vis-à-vis de moi. C'est fausser justement la relation que j'ai avec lui. Je vais vous raconter, on a eu l'occasion avec certaines personnes présentes ici dans la salle, puisque le temps qui m'est imparti est très très court. J'ai pris le livre de prière du jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est le jour du grand pardon, c'est un jour solennel dans le calendrier juif. C'est pas le jour où on demande pardon, mais c'est le jour où on est pardonné. Une nuance, c'est à Rosh Hashanah, c'est-à-dire un nouvel an juif qu'on demande le pardon, et c'est le jour de Kippour où nous sommes pardonnés. Nous sommes censés être pardonnés, non pas pour les fautes commises entre un individu et son prochain, mais entre l'individu et l'éternel. Parce que si nous avons vexé un proche, lointain ou non, si j'ai vexé quelqu'un, c'est auprès de lui que je dois demander pardon, c'est pas à Dieu. On s'entend. Et le Kippour est là justement pour remettre en question toutes les relations qui m'incombent, les relations que j'ai avec ces relations verticales, que j'ai avec ce qui me dépasse. Et dans ce jour de Kippour, il y a cinq prières. Figurez-vous, vous savez que quotidiennement, dans le jour juif, vous avez trois prières. La prière du soir, parce qu'un jour juif commence toujours dans les ténèbres pour finir dans la lumière. Donc c'est la prière du soir, la prière du matin et la prière de l'après-midi. Les jours de fête et les jours de néomonie, de nouveau mois, comme le mois lunaire. Je ne vais pas vous faire une explication de quelques secondes sur la différence d'un calendrier juif, d'un calendrier grégorien, calendrier civil, grégorien, et d'un calendrier solaire, qui est composé de 365 jours, entre parenthèses, était composé de 10 mois, on a rajouté le changement janvier, février, non pas à la fin, mais au début, mais enfin si vous dites octobre, octobre c'est le 8e, novembre, décembre c'était le 10e mois, il y a janvier, février qui ont été ensuite ajoutés bien plus tard, mais au début du calendrier, ce qui fait au final 365 jours, le mois lunaire qui est le calendrier juif, donc fixe les mois selon les lunaisons et non pas selon, le soleil. C'est-à-dire que les mois font non pas 30 ou 31 jours, mais 29 jours et demi. Et au terme de l'année, vous avez 354 jours et non pas 365. Autrement dit, vous avez un décalage de 11 jours avec un calendrier grégorien. C'est la raison pour laquelle, vu que le calendrier juif est à cheval entre les saisons et la lune, et les lunaisons, contrairement au calendrier lunaire dans l'islam, vous avez une année bissextile tous les 3 ans pour justement rattraper le décalage par rapport aux saisons. Parce que les saisons sont mises en exergue dans les textes bibliques, quand on parle de la fête du printemps, de la Pâque juive, comme les Pâques, eh bien, c'est la fête du printemps. Si vous ne rattrapez pas tous les 3 ans d'un 13e mois, qu'on appelle année bissextile, c'est-à-dire une année de 13 mois et non pas de 12 mois. Donc, c'est un mois que vous rattrapez au terme de 3 ans, si on en sera 3. Eh bien, on se retrouverait à la Pâque sous la neige, ou bien à la fête de Hanouka, la fête des Lumières, le Noël de Juif, en plein été. Donc, pour éviter ce décalage, on est amené à rattraper le temps. Ah, le temps. Le temps, tous les 3 ans, avec un 13e mois supplémentaire. Je referme la parenthèse. Et donc, dans le calendrier juif, vous avez des jours de fête, des néoménies, et des jours de Shabbat, vous allez rajouter une 4e prière le matin, et puis le jour de Kippour, vous allez en rajouter une 5e, qui est l'office de clôture, qu'on va appeler Neila. Mais là, c'est en même temps la chaussure, c'est ce qui vient nouer la journée en espérant qu'on n'a pas trop le ventre noué, mais surtout le cœur noué. La journée est écoulée et on sort les rouleaux de la loi l'après-midi du jour de Kippour, du jour du Grand Pardon. On sort les rouleaux de la loi. Et vous savez que il a été décidé du temps de Ezra, on est bien avant l'ère chrétienne, il est autour de moins 500. C'est repris ensuite dans les textes talmudiques que nous procédons à une lecture annuelle, un cycle annuel, à la lecture de l'ensemble du Pentateuque. L'ensemble du Pentateuque va être divisé en 54 sections, ce qu'on appelle en français des péricopes. On n'est pas plus avancé. Et ces péricopes vont donc marquer tous les samedis de l'année. Nous allons commencer la lecture autour du Nouvel An pour finir au Nouvel An de l'année suivante. Et on va lire donc des sections. Et ces sections sont lues dans tous les samedis, excepté les jours de fête où on va éventuellement réitérer des textes déjà parcourus, déjà traversés. Et c'est le cas le jour de Kippour où nous lisons un texte qui a été lu il y a 3 semaines, un texte relevant les relations sexuelles interdites, les relations incestueuses. Nous lisons ce texte d'Acharemot qui est dans Lévitique chapitre 18. Les relations interdites entre parents et enfants, entre enfants, entre familles. Et on va relever justement tous ces rapprochements interdits. Et bizarrement, va suivre ce texte de la Torah, un texte de la Haftara. Alors, qu'est-ce que la Haftara? La Haftara est un décret rabbinique qui date de -165, à l'époque d'Antiochus Épiphane, on est à l'époque romaine. Les Juifs ont l'interdiction de faire des lectures publiques du Pentateuque, parce que l'institution de lire le texte de la Torah, du Pentateuque, non pas de la Bible, mais du Pentateuque, est déjà bien ancré dans les synagogues, dans les cultes, en Israël. Et les Romains interdisent la lecture du Pentateuque pour prosélytisme, pour éviter évidemment que les textes permettent l'épanouissement religieux. Et les maîtres, judicieusement, vont instituer la lecture d'un texte qui rappelle le thème de la péricope de la semaine, un texte prélevé des prophètes. Un texte prélevé des prophètes qu'on va appeler Haftara. H-A-F-T-A-R-A. Je ne sais plus le nom. Et ce texte de la Haftara va donc systématiquement, on imagine bien, les textes ont été choisis, donc autour de 1965, ces textes-là vont donc systématiquement, on imagine bien, rappeler le thème de la péricope de la semaine. Je vous donne un exemple, quand on parle de la traversée de la mer Rouge, c'est un plein exode, c'est la section, la péricope de Béchalar. La Haftara qui va suivre juste derrière, c'est la Haftara de la traversée du Jourdain par Josué et ses ouailles. Et on voit le rapprochement. Quoique, c'est pas la même profondeur, mais peu importe, c'est pas l'objet de ce soir. Mais vous allez donc à chaque fois avoir des juxtapositions pertinentes des Haftarot, de ces textes qu'on va lire quand on va refermer les rouleaux de la loi, si vous avez déjà aperçu un culte le samedi matin ou le jour de fête, on ferme les rouleaux de la loi et puis, avant de reprendre l'office, on lit un texte des prophètes. Ce décret est toujours maintenu de nos jours. Et figurez-vous que l'après-midi du jour de Kippour, nous lisons le texte de Lévitique avec ses relations incestueuses. Et juste après, on entame la lecture de Jonas. Vous connaissez bien sûr Jonas. Mais vous me permettrez de relire les premières phrases. Jonas, l'histoire de Jonas, l'histoire de la baleine. Alors, je vais quand même vous lire les premiers passages. Donc, il a été institué. Et pourquoi à Kippour? Évidemment, ça mérite une autre soirée, donc il faudra en faire. Pourquoi le jour de Kippour? Ben, c'est un jour spécial. Et on parle de quoi, justement? Alors, nous reviendrons à ces problèmes de relations interdites, mais jetons un œil sur le début de Jonas. Jonas, c'est prévu des prophètes, c'est pas dans les Ketuvim, c'est pas dans les Ajodas, c'est dans la deuxième partie de la Bible, de l'Ancien Testament. Il est marqué, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et déclare à haute voix que sa perversité est venue jusqu'à moi. On va donc leur demander de se repentir. Que fait Jonas? Est-ce qu'il va à Ninive? Vous connaissez l'histoire. Il va à Tarchish. Il se rend à Tarchish, qui est un port, plus précisément à Jaffo, à Jaffa, avec ses belles oranges. Et il y trouve un vaisseau qui partait pour Tarchish, il employait le passage de son barca pour aller avec les gens de ce navire, afin d'éviter la présence de l'Éternel. Mais Dieu suscita un vent impétueux, une tempête furieuse s'éleva sur la mer, et le vaisseau était sur le point de se briser, les matelots saisis de crainte invoquèrent chacun son Dieu, et afin d'alléger le poids du navire, ils jetèrent la cargaison à la mer. Tandis que Jonas était descendu au fond du navire, s'y était couché et endormi. La lecture que je vous propose est une lecture du grand rabbin Gilles Bernheim, que j'admire particulièrement, parce que c'était mon leader quand j'étais jeune. Mais vous pouvez aisément aussi acheter le dernier de Daniel Sibomi, qui est extraordinaire, le commentaire biblique, je crois qu'il est sorti chez Abel Michel, qui vous propose ici une lecture de ce début de Jonas, mais qui n'est pas celle de ce soir, et qui est aussi passionnante. Ici, je reprends Daniel Sibomi que j'ai eu le loisir d'étudier ce week-end, parce qu'on n'est pas sorti de mon âme. Donc je vais être ainsi succinct. Alors vous savez que le texte biblique n'est pas payé au mot. Payé au mot. C'est-à-dire que comme la Torah, si la Torah vous dit « et » et pas « les », c'est que « et » est créateur d'un sens, comme le « les » est créateur d'un sens. C'est le sens qui nous permet justement d'avancer. Dans la quête identitaire et dans la quête identitaire de chacun des hommes et des femmes, c'est pour nous c'est la même chose. Et si Jonas nous raconte tous ces détails précis de la manière dont il s'éloigne de la demande divine, de la requête de l'Éternel, et on nous raconte la manière dont il s'éloigne, qu'il monte sur un bateau, que le bateau ne lui suffit pas, qu'il doit descendre dans un câble, et puis je vais reprendre le texte avec vous. Si la Bible n'est pas payée au mot, si la Bible est divine, alors j'aimerais bien comprendre pourquoi tant de précisions. Et ces précisions sont extraordinaires. On a affaire à un travailleur social, que je suis censé représenter ce soir. La parole de l'Éternel qui s'adresse à Jonas va à Ninive, essaie de faire du travail social. Daniel Sibomi, d'ailleurs, relève qu'il n'a pas envie de les voir se repentir. Et ça, c'est une autre histoire. Jonas s'éloigne. Mais il ne s'éloigne et ne se contente pas de s'éloigner au niveau terrestre, mais il passe du niveau de la terre au niveau de la mer. Donc en termes d'éloignement, c'est déjà pas mal. Donc il quitte sa ville pour aller en bord de mer. Il est en bord de mer, il est déjà loin, loin, loin de ses responsabilités, mais il ne se contente pas de s'éloigner de ses responsabilités. Cet éloignement ne lui suffit pas, il monte sur un vaisseau. Il monte sur le vaisseau, ça ne lui suffit toujours pas. Jonas descend dans la cale. En termes d'éloignement, on a déjà plusieurs phases successives pertinentes. Jonas quitte la terre pour aller sur mer, la mer, il est sur le vaisseau, debout sur le vaisseau, en haut du navire, il descend dans la cale. Quand il est dans la cale, il n'est toujours pas satisfait, il ne se contente pas d'être debout au sous-sol, il s'allonge. Il était debout en haut du navire, il est debout au fond de la cale, et maintenant il s'allonge. Est-ce qu'il se contente d'être allongé, endormi? Je pars maintenant rentrer dans la psychanalyse que c'est l'endormissement, le suicide, quitter. De s'échapper. Alors, un échappement déjà physique, il est dans la cale, il est descendu au fond du navire, et il s'y couche et s'endort. Et quand il est allongé au fond de la cale, eh bien, on va être bref, il se retrouve encore plus bas, c'est-à-dire au fond de la baleine. Et c'est seulement au fond de la baleine qu'il implore l'Éternel. Parce que bon, entre temps, il dit au matelot, bon, jetez-moi, allez. Visiblement, l'éloignement de cale ne le satisfait toujours pas. Il opte pour un éloignement supplémentaire, c'est-à-dire la baleine. On ne peut pas aller plus bas. On ne peut pas aller plus bas, on ne peut pas aller plus loin. Une petite mort. Jonas est un travers social, comme tout être d'ailleurs, parce que nous sommes toujours en lien avec l'autre. Vous savez que la section qui va suivre à Harémo dans Lévitique, on est dans la même section, dans la même péricope que de Ve'ahata l'Areacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, on parle de la relation sexuelle entre un frère et une sœur. Et on dit, lorsqu'un frère va avec sa sœur, sous-entendu évidemment la sexualité, la Torah nous dit, c'est du chesed. Ça s'appelle chesed. Et vous savez que le mot chesed en hébreu, je pense que mes prédécesseurs ont pu partager ces réflexions avec vous, c'est la vertu de la générosité, du bien, du bon. Eh bien, figurez-vous que le mot chesed ici signifie la domination. Ça, c'est la force de l'hébreu d'ailleurs, parce que le texte dans la Torah n'est pas ponctué. Alors, c'est plus que de l'homographie, parce que c'est les mêmes racines, mais c'est du double sens. Dans la même mesure, vous avez le mot kadosh qui veut dire saint et qui peut vouloir dire aussi la prostitution. Le sens du mot est tributaire de nous et fonction de ma lecture, de ma sensibilisation, la manière dont je vais ventiler, la manière dont je vais comprendre, la manière dont je vais lui donner du sens, la manière dont je vais être médiateur entre la rigueur du texte et la quotidienne. On est dans toute la définition de la liberté. Le terme chesed s'écrit exactement de la même façon. Chet samer palet. Alors je vais ponctuer. Et chesed. Le chesed, c'est le bien. C'est faire du bien. Produire le bien, d'être bon avec l'autre, d'être miséricordieux, d'être chanoun, rachamim, le terme rechem d'ailleurs, qui est l'utérus en hébreu, on traduit vulgairement par la miséricorde, mais miséricorde. Étymologiquement, le terme rachamim qui signifie miséricorde, vulgairement, entre guillemets, rachamim vient du mot rechem qui est l'utérus, la relation fœtale qu'a un parent, qu'a la mère avec son enfant. Ça, c'est la miséricorde, c'est cette relation. C'est de cette relation qu'il s'agit. Ce chesed, cette générosité que je dois avoir l'autre, avec l'autre, eh bien, il faut y prêter attention. C'est quoi le chesed? C'est pour ton bien, mon fils. On l'a souvent entendu petit, hein. Ou ma fille, je porterai bien mon enfant. C'est quoi faire le bien? Parce qu'il y a Chesed, qui est la générosité, qui est la bonté par excellence, qui est la vertu d'Abraham. Abraham adossé à cet arbre, échelle, quand on parle dans la Torah, du Pentateuque. Vous savez évidemment que le texte n'est pas payé au mot, comme je le disais. Donc pourquoi on nous précise que Abraham était adossé à l'arbre? Eh bien, échelle, ce sont trois lettres, l'acronyme, c'est l'abréviation de trois choses capitales. C'est l'hospitalité. L'hospitalité, c'est Aleph, Achila, nourrir la personne que je reçois, Shin, Shekia, lui donner à boire, et la mède, le raccompagner. Tu sauras où est la porte? Non, je raccompagne mon invité. Ça, c'est l'hospitalité. À tel point que même le jour de sa circoncision, il a voulu qu'il se repose, il fait très très chaud, et vu que c'est cette vertu qui le transcende, il réclame des invités. Il réclame des visiteurs, et ce sont ces trois anges qui viennent à lui. Chesed, c'est Abraham en personne. Le peuple, le père des peuples, le père des monothéismes. Achila, ce qui a les biens. De raccompagner. Raccompagner, c'est une forme de tzedaka, une forme de justesse, non pas de justice, mais de justesse, d'être juste. La plus belle tzedaka d'ailleurs qu'on peut faire avec son prochain, c'est de le raccompagner à sa dernière demeure, parce que mon prochain ne peut me le rendre. Quand je raccompagne le défunt, c'est la plus belle des charités, parce qu'il ne peut pas me dire merci. C'est ça la tzedaka. Être juste, être bon. Faire du chesed, c'est Abraham personnifié. Eh bien, figurez-vous que ce chesed-là, peut-être aussi une abomination. Et quand on parle de la relation d'un frère avec sa sœur, eh bien le texte nous dit « Ah, ça c'est chesed !» Et les commentateurs, évidemment, d'expliquer « C'est abominable !» Alors c'est quoi être bon? Mais c'est pour ton bien, ma sœur. C'est pour ton bien, mon frère. Et là, on met le doigt sur quelque chose de capital, qui est justement la relation à l'autre. C'est quoi cette relation à l'autre? Eh bien, je reviens à mes moutons. Du Kippour après-midi. On nous parle des relations interdites. De ces relations, de ces rapprochements exacerbés. La manière dont j'exacerbe mon rapprochement à l'autre. Ben, Jonas, c'est l'extrême opposé. C'est l'exacerbation dans l'éloignement. Alors on dirait où est le juste milieu? Ben si on savait, il n'y aurait plus de guerre aujourd'hui. Et puis je dirais, mais si, serait bien bel et bien là. En tous les cas, les guerres, il n'y en aurait plus. Et je regarde autour de moi, le juste milieu, évidemment, je n'ai pas de recette miracle, parce que ce n'est pas l'objet de donner des réponses, mais en tous les cas, l'objectif de mon intervention, c'est de poser des questions. Je crois qu'on est avant tout, tout être d'ailleurs, présent pour se poser des questions. Et tant qu'on se pose des questions, eh bien, le monde avance. D'ailleurs, Adam, l'être humain, Adam, sa valeur numérique, ben, les valeurs numériques, pour moi, ce sont pas des explications, ce sont des prétextes. Sont des choses. Adam, Aleph, Dalet et Mem font 45, comme le Ma, le Quoi, Mem He, qui fait aussi 45. Donc c'est de se poser des questions. comme le temps d'ailleurs. Le temps en hébreu, zéman, en un mot, zéman, zé, c'est man, la question. Tant qu'il y a des questions, on avance. C'était une parenthèse. Tant que je ne suis pas là, et j'espère que personne ne sera là pour donner des réponses. Tant que vous n'êtes pas là pour donner des réponses, moi non plus, mais essayons de mettre en commun, en tous les cas, des questionnements. Les questionnements de ce soir, c'est ces deux textes très particuliers de l'après-midi de Kippour, où nous voyons, d'une part, ce travers social que je suis censé représenter, empathique, ouvert à l'autre, dans son comportement, qu'entend-il dans l'aide qu'il va apporter, et inversement, Jonas, qui fuit ses responsabilités, qui fuit le rapprochement. Alors aujourd'hui on parle de distance, distanciation. On fait ces exercices, voilà ma bulle, voilà la tienne, t'approche pas, dépasse pas cette bulle. C'est quoi la distance? Mettre des distances. C'est sûr qu'il faut se protéger. Mais c'est pas en tous les cas la distance de Jonas. Parce que là, c'est un suicide. Là, c'est un éloignement. C'est plus de la distanciation. Maintenant, il faut comprendre comment se positionner, comment être avec l'autre. Comme le disait le Talmud, Rechei Achicha Imar. Il doit vivre ton frère, ton proche, quel qu'il soit, tout homme, avec toi. Il ne s'agit pas de fusion, il s'agit d'accompagner. J'accompagne l'autre, et comme disait la fameuse histoire, cet homme qui allait toquer à la porte des vilaines, par rapport à Bertalacha, à Kamocha, je pense que Martin Watkin nous a sans doute raconté cette histoire, ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ben c'est Zekla et Gadol Batora, c'est le principe même de la Torah, et c'est le principe même de l'humanité. Et cette humanité, vous allez la retrouver dans... Il me reste 5 minutes. C'est dur. J'ai apporté des textes avec moi, j'en ai encore plusieurs, mais bon, ce ne serait pas sorti. On aurait fait une soirée pascale, c'était pas le but, mais j'ai un merveilleux texte de Gilbertheim sur le début du traité de Shabbat. On parle de l'interdiction de porter, comment un pauvre et un riche entrent en relation. Le pauvre qui est à l'extérieur, le riche qui est à l'intérieur, parce que vous savez qu'on ne porte pas. On ne déracine pas de l'intérieur d'un domaine pour le déposer dans un autre domaine. Le jour du samedi, du Shabbat, et alors comment l'un et l'autre entrent en relation et partagent l'effort pour qu'ils soient quittes, pour qu'ils soient absous, pour qu'ils ne transgressent pas le fait de porter un objet dans un domaine public. Parce qu'il est question de rester chez soi ou de sortir, mais pour y retourner le plus vite possible, parce que le Shabbat est justement la promotion de la convivialité, de l'intériorité, et non pas la course au dehors. Et ce texte, ça mérite peut-être une autre soirée, mais j'aimerais finir avec la Haftara, une très très belle Haftara qui se trouve dans Michée, que l'on lit le samedi où nous lisons Balak. Balak est une péricope qui se trouve dans Bamidbar, dans les nombres, dans les dénombrements. Et Michée, alors, j'ai le texte en hébreu, non, c'est dommage. Texte qui, je pense, est fondamental et est vraiment l'axe principal de toute la Torah et de tout le judaïsme. Homme, on est dans le chapitre 6, verset 8 de Michée. On est dans les fameux 13. l'Église à très jeune âge, d'ailleurs. Homme, on t'a dit ce qui est bien, et qu'est-ce qui est bien, ce que le Seigneur, l'Éternel, demande de toi, de point, c'est quoi ? Toi, être humain. Ben, rien que de pratiquer la justice, d'aimer la bonté, et de marcher humblement avec ton Dieu. On ne parle pas de faire la prière, on ne parle pas de manger cachère, ou de faire le culte, de faire le Shabbat, on demande trois choses. Un, de pratiquer la justice. Deux, d'aimer la bonté. Et trois, de marcher humblement, d'être humble, de faire le bien. C'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver entre la 611e, la 612e et la 613e mitzvah, 611, 612, 613, commandements de la Torah. Figurez-vous que la 611e, c'est ça, les Idamot Bachem, de ressembler à l'Éternel, de ressembler à Dieu. En trois choses, c'est d'être digne, d'être humain et d'être serviable. Anirachum, apatarachum, anirhanum, apatarhanum, dit le texte. Donc, tu dois être rachami, tu dois être miséricordieux, comme moi je suis miséricordieux. Et je dois ressembler à l'Éternel, c'est la 611e mitzvah, 611e commandement de la Torah, du Pentateuque. La 612e se trouve alors, je donne quand même les références, nous ne sommes pas des sauvages, Deutéronome 28, 9. Pour la 611e, Deutéronome, chapitre 28, verset 9. 612e mitzvah, commandement, c'est de rassembler tout le peuple au jour de Sukkot et de raconter l'histoire du Deutéronome, du cinquième livre de la Torah qu'on va appeler Sefer. Il s'agit de rassembler, de coopérer, de promouvoir justement l'union. Et pour finir, nous sommes dans Deutéronome 31, verset 12. Dernière mitzvah, dernier commandement du Pentateuque, écris-toi, ton Sefer Torah. Écris-toi ta Torah. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement la promotion du savoir, de la connaissance, la transmission. Nous avons ici trois clés, trois piliers, nous dit d'ailleurs les maximes de nos pères, où Simon le Juste, c'est au tout début des maximes de nos pères, va nous dire, sachez que le monde repose sur trois choses, c'est-à-dire la Torah, la Avoda, et la Gemilut Chassadim. Je traduis, le monde repose sur trois bases, sur l'étude, sur le culte, Avoda, et sur la charité. De faire, de provoquer le bien, le chesed. Torah, c'est la connaissance, Avoda, c'est le travail. Comme je disais tout à l'heure, on parle de Avoda autant dans le temple de Jérusalem que Avoda dans la route tous les jours, dans la vie tous les jours, parce que quand je pars travailler le matin, je dis à Niovel en hébreu, je travaille. C'est le même terme qu'on utilise pour le culte des prêtres que pour tout un chacun dans son cabinet ou dans son imprimerie. Cet Avoda, c'est le rassemblement. C'est un clin d'œil à ces trois derniers commandements du Pentateuque. Et on nous dit, c'est le fondement même, c'est sur ces trois piliers que va reposer le monde. Sur la connaissance, le savoir. D'ailleurs, c'était, je pense, la bataille des travailleurs sociaux du début du siècle dernier, promouvoir le savoir, autant que faire se peut, faire en sorte que les gens sachent le plus pouvoir avancer sur le plan économique, social. Je pense que le travailleur social, maintenant, ne dans la promotion du savoir, mais plus dans la stimulation du social, de la relation, du lien à l'autre. La connaissance, le rassemblement, et puis le chesed, ce fameux chesed. Et figurez-vous, me disait Monsieur Prin, juste avant de rentrer, il dit, regarde l'arc-en-ciel. C'est dommage, on ne parle pas de Noé ce soir. Alors moi, j'ai envie de parler de Noé. Parce que vous m'avez donné cette idée. Ben, figurez-vous qu'il y a eu déluge. Après, il y a eu cet arc-en-ciel. Et pourquoi il y a eu déluge? Les hommes se conduisaient mal. Donc il manquait les piliers que l'on cite, là. Il manquait peut-être ce savoir, ce rassemblement, cette relation à l'autre, ce chesed. Alors, figurez-vous que Torah, alors j'extrapole, c'est pas la connaissance du Pentateuque, mais c'est la connaissance tout court. La connaissance existait. Le Midrash nous dit que Adam a été invité par l'Éternel lui-même, a été invité à nommer les animaux. On est au début de la Genèse. Vous savez que ce n'est pas Dieu qui donne les noms aux animaux, mais c'est Adam lui-même. Et ce n'est pas n'importe quoi que de nommer les animaux, trouver un nom qui correspond à sa personnalité, à son caractère, à son identité. Avoir un nom tout à fait ad hoc, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est pas gratuit. Adam est invité à le faire parce qu'il a toute la connaissance et les facultés pour cela. Donc connaissance, savoir existe. Le savoir existe. Le culte existe, bien sûr que le culte existe. Cain et Abel offrent des sacrifices, même si le terme sacrifice pour moi, c'est pas le plus en soi. C'est une mauvaise traduction. Essaye de se rapprocher au divin en apportant des offrandes. Donc le culte existe, la Torah existe, la connaissance est là. Il manque quoi? Il manque la chesed. Il manque ce troisième pilier. Et parce qu'il manque le troisième pilier, Dieu va anéantir la terre. On a beau avoir des connaissances dans la tête, on a beau avoir accumulé des connaissances, regardons-nous. Regardons derrière nous, il y a 60 ans, ce n'est pas des ignorants qui ont provoqué la dernière guerre. La connaissance n'empêche pas les guerres, le culte n'empêche pas les guerres, la connaissance existait, la Genèse en parle, le Midrash relève cette domination des animaux. Le culte existe, mais il manque le chesed, il manque cette générosité. Il manque cette relation à l'autre, l'altérité de l'humain. Cette altérité n'existe pas. Le monde ne mérite pas d'exister. Alors Noé est invité à monter sur l'arche, et que va-t-il faire? Peut-être qu'il dit 40 jours, 40 nuits. Que va-t-il faire pendant un an pour rattraper, pour recouvrir, comme on dit en bon français, ce pilier manquant? Il va nourrir les animaux. Il a fait monter les animaux, il n'a pas fait monter son épouse, ses enfants, ses filles, ses filles, et l'épouse de ses filles. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit une belle-mère avec des coups dans le même bateau pendant 40 jours. Enfin, je me dis ça. Mais ils sont tous ensemble, la famille est présente, et puis il va passer ses jours et ses nuits. Ces nuits comme ces jours à nourrir les animaux, c'est-à-dire à faire du chesed, à provoquer le lien. Et c'est en provoquant ce lien que le déluge peut cesser et qu'on peut recouvrir la liberté d'humanité. Alors vous allez me dire, oui, mais après, juste après cette fameuse génération d'or à Palaga, La tour de Babel, c'est quoi? Parce que Dieu ne détruit pas la terre. Les êtres humains construisent une tour pour attaquer les cieux. Quelle image? Évidemment, on fuit nos visions d'Épinal, mais on ne comprend pas que Dieu ne réagisse pas. Eh bien, figurez-vous, nous dit le Midrash, que l'union des hommes, même pour produire le mal, l'union force le respect de Dieu lui-même. Force le respect de l'Éternel. Ils font le mal, mais ils sont unis. Après les élections de la semaine dernière, l'union, non pas l'union fait la force, mais l'union fait la force, parce que je suis, même si ça ne soit pas un grand gourmand, l'union fait la force, et là très sérieusement, l'union force le respect de l'Éternel lui-même, nous dit le texte, nous dit le Midrash. Au point que Dieu, entre guillemets, pour punir, ne va pas détruire la terre, mais va simplement mélanger, confondre les langues. Parce que là, on est dans le chesed. Il nous dit les textes, il nous dit les exégètes, il pourrait y avoir que le chesed, le monde continuerait. Le monde serait pérenne. Et le monde n'a pas été pérenne dans le déluge. Le deuxième temple a été détruit pour les mêmes raisons. Et pourtant, les barbes longues étaient très longues dans le temple de Jérusalem, on raconte le Talmud. Mais il y avait une haine gratuite qui a provoqué sa destruction. On est dans la période de l'Homère, cette période qui était censée être à l'époque du temple une fête entre la Pâque et la Pentecôte, qui s'est transformée en cauchemar. Parce que tous les élèves, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, sont morts pour ces mêmes raisons. Et la Torah est là justement, c'est ce qui nous rassemble, pour promouvoir l'humain, pour faire la promotion de l'humain. Elle nous donne des outils pour nous permettre de nous épanouir dans notre quête identitaire. Je vous remercie.
Que nous connaissons bien n'avait pas pu venir et s'en excuse bien sûr. Ça m'a fait penser à cette forme d'esprit bien particulière aux personnes qui pensent d'une certaine façon. Moi je connais ça dans le judaïsme, ça existe sans doute pour d'autres, mais vous partez d'un point, vous nous menez, puis même à un moment je me demandais où. Mais moi qui connais beaucoup de choses, j'ai trouvé pas facile, pour ceux qui me connaissent peut-être moins, ou pas trop, mais on est bien revenu au point de départ, et ça je pense que c'est assez fantastique effectivement à travers les lettres, tout ce que vous avez dit, et les textes. Moi je suis restée sur ma faim quand même avec l'histoire de la gourde, et de l'eau dans le désert, mais vous avez peut-être donné la réponse, effectivement... Il faut un juste milieu. Mais là, c'est pas évident, ce juste milieu. Non, bien. Mais.
Ce ne sont pas des lois.
Non, ce sont des commentaires, des discussions, bien sûr.
Je veux m'arrêter aux discussions.
Voilà. Alors, je veux laisser la place à ceux qui voudront bien poser des questions, parce que vous avez entendu ces questions. Il y a peu de réponses dans le judaïsme. Mais il n'y a vraiment que des questions, et c'est vrai que Martin Awatnin l'avait bien dit, le dit et le redit. Tous le disent, questionnons-nous, questionnez-vous, et que nous puissions justement ensemble, sans dire que nous trouvons des réponses, parce qu'une fois qu'on a trouvé des réponses, on est enfermé dans nos réponses. Alors, qui veut commencer?
Oui.
Oui. C'est mieux quand même.
Oui, parce que sinon, je l'aurais dans.
Ah bon, excusez-moi. Non, je ne sais pas si c'est vraiment une question. Je m'interpelle avec cette histoire de la gourde. Je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas une troisième possibilité, à savoir celui qui a la gourde donne la gourde à l'autre. Et alors je me suis rappelé qu'effectivement il y a plusieurs étapes. Il y a ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, donc c'est une manière négative d'aimer son prochain. Ensuite il y a tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est une manière positive, on va plus loin. Et puis ensuite, il y a le message du Christ qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. » Alors je me suis dit que dans cette histoire de gourde, peut-être que la personne qui fait le troisième niveau aurait donné sa gourde à l'autre et puis ou serait mort, ou il y aurait, je ne sais pas, quelque chose qui se serait passé, pas forcément, mais enfin... Voilà, donc je voulais donner ce sentiment, parce que ce sont des choses qui se sont faites depuis le christianisme, ce don complètement de soi, ce sacrifice, c'est d'aller beaucoup plus loin. Bon, je vais parler de la mère, et on cite le père Maximilien Kolb, dont je pense que tout le monde connaît l'histoire, qui a donné sa vie, il n'était pas du tout... pour un autre, pour un père de famille qui devait se trouver, qui devait mourir, il lui a dit non, ben, je prends ta place. Donc c'est un peu cette histoire de la gourde entre parenthèses. Voilà.
Alors c'est sûr que quand on le vit,
évidemment, je pense moi-même que je réagirais ni comme l'un, ni comme l'un, ni comme l'autre, mais on ne sait pas. Il y a la réflexion, et puis ensuite il y a le silence, qui permet à chacun aussi d'avoir ses ressentis et sa manière de comprendre les choses. Et c'est vrai que j'extrapole, on est toujours sur ce même terrain. Vous savez que bénir, d'ailleurs la bénédiction a ses mêmes difficultés, ses doubles sens, hein, parce que le mot baruch peut signifier autant la bénédiction que la malédiction. Mais les lettres bet, resh et kaf sont chaque fois des pluriels. Parce que la malédiction, c'est quand on n'est pas seul. La bénédiction, c'est quand on n'est pas seul. La bénédiction, c'est toujours quand je suis en lien avec l'autre. Parce que le bet, c'est le multiple de 1, c'est le 2, le resh, c'est 200 en valeur numérique, c'est multiple de 100. Et le kaf de la fin, c'est 20. C'est le multiple de dizaines. La bénédiction, c'est ça. C'est le lien. Uniquement le lien. Et c'est uniquement quand je suis en lien avec l'autre que ma relation verticale prend du sens. Ma relation divine ne peut prendre de sens que si je suis en lien avec l'autre. Ça me semble un rappel, qui est un commentaire allemand. Un juif orthodoxe moderne du 19e, que je me reconnais bien d'ailleurs, disait que l'état de la loi était cubique. Loin, loin de ces images du final qu'on trouvait même dans les synagogues d'ailleurs, de ces formes arrondi, ces courbes d'état de la loi. L'état de la loi sont composés de deux parties, les cinq premières qui concernent les relations qu'a un homme avec le divin, avec ce qui le dépasse, l'absolu, l'infini, et les cinq suivantes concernent les relations entre l'homme et son prochain, qui incombent les relations que j'ai avec l'autre. D'ailleurs, le respect des parents ne se trouve pas dans les cinq dernières, mais dans les cinq premières. C'est que quand je respecte mes parents, j'accomplis, je satisfais une relation que j'ai avec l'Éternel. Je referme ma parenthèse. Et figurez-vous que les cinq premières, lorsqu'elles adhèrent aux cinq suivantes, forment un cube parfait. Et ne peut composer ce cube parfait que si les cinq dernières adhère aux cinq premières. Seulement lorsque les relations que j'ai avec l'autre sont juxtaposées à ce qui m'incombe dans ma relation divine. Autrement dit, le sens se concrétise, le sens que je donne à ma relation divine ne se concrétise que lorsque je suis en relation avec l'autre, quel qu'il soit. Et c'est parce que je ne tue pas, je ne vole pas, je ne viole pas, etc. C'est là, on parle de jalousie, c'est les cinq paroles, on parle de commandements, enfin, il s'agit surtout des affaires, pas des voies, des commandements. Ce sont ces cinq suivantes qui vont donner justement force aux cinq premières et inversement, et composeront donc ce cube parfait. On va le retrouver parce qu'on va commencer la lecture de la péricope de Bamiba, de même roman. On va s'amuser à compter plusieurs fois parce que Dieu aime compter, mais on ne compte pas du doigt d'ailleurs. On apprend ça dans la tradition des textes du Pentateuque. On ne compte pas du doigt parce que nous ne sommes pas des numéros, mais nous avons des identités qu'on respecte, chacun de nous. Et chacun est invité pour compter le peuple dans le texte biblique de Bamidbar, des nombres, est invité à déposer la moitié d'un shekel, la moitié d'un sicle dans un grand récipient qui se trouve au tabernacle, la moitié d'un sicle, et nous dit toujours Samson Raphaël Hirsch, que le sicle ne pouvait être entier que dans la mesure où l'autre avait aussi mis son demi-cycle. Parce que chacun apportait un demi-cycle, n'apportait pas un cycle entier. Chacun ne pouvait apporter qu'un demi-cycle, pauvre comme riche, riche comme pauvre. Et ce cycle ne pouvait être entier que dans la mesure où l'autre avait également posé son demi-cycle dans le récipient. Donc moi, tout seul, je ne suis rien. Si je donne ma gourde, ça appartient à chacun. Mais en tous les cas, c'est qu'avec l'autre que je peux avancer.
Pour répondre indirectement à Elisabeth, je pense qu'il faut mettre une distance entre l'amour et le sacrifice. Aller vers l'autre ne suppose pas automatiquement cette nécessité de se sacrifier. Et nous, chrétiens, on doit revoir cet aspect certainement des choses, parce qu'on avait une vision pendant certains des siècles de théologie où le sublime de l'amour, c'était de se sacrifier. Il va falloir revoir la question. Je pense que même à travers le deuxième testament, les évangiles et les épîtres, il y a certainement une relecture à faire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un contexte parfois de sacrifice, mais on ne peut pas réduire l'amour chrétien sur une dynamique de sacrifice, de dire voilà, ce sublime, je l'exprimerai par mon sacrifice. Je crois qu'il faut l'amour certainement lié à une dimension créative, c'est un art, l'amour, et on est à plusieurs à créer. Je crois qu'il faut se réconcilier l'amour avec le processus de la création, donc avec un processus artistique, au théâtre, à la musique, à toutes les créations, même architecturales. Donc même dans cette approche chrétienne, évidemment, on est à l'écoute de l'approche judaïque pour mieux comprendre et relire autrement aussi nos textes chrétiens. Je crois qu'il y a aussi une autre piste d'amour qui est comment tous ensemble nous allons créer l'amour créateur. Dieu est aussi un créateur, il ne s'est pas que sacrifié, il a aussi créé. Donc comment chacun peut apporter sa pierre pour créer tous ensemble. Une réponse partielle, hein, Elisabeth, voilà, un petit apport.
Alors juste deux secondes si tu permets, parce que bon, tu parles de relecture de texte et après je m'arrêterai là-dessus. Il est évident que ce n'est pas donné à tout le monde, qu'on ne va pas le faire n'importe comment, que si on le fait forcer, ça ne s'appelle plus de l'amour du prochain, ça ne s'appelle pas donner de sa vie, il est évident que quelqu'un qui fait cela. Donc c'est une voie qui a été ouverte, avant elle n'existait pas. C'est ça ce que je veux dire, le message chrétien, c'est une voie qui a été ouverte, avant il y avait deux voies. Ne fais pas de mal et tu aimeras. Et après il y a une troisième voie qui s'est ouverte. Et c'est évident que pour arriver à cette troisième voie, il faut avoir fait, je pense, un travail sur soi, et que le don est un véritable don. C'est pas je me contrains, c'est pas je me force, c'est pas je me sacrifie dans le mauvais sens du terme de sacrifier, d'ailleurs le Christ ne s'est pas sacrifié, il a donné sa vie, on ne le tue pas, il donne, il se donne. Donc arriver à cela, c'est seulement si on arrive à ce degré qu'on peut, c'est tout, je veux juste dire qu'il y avait cette ouverture sans... Voilà, c'est tout.
Sympa. Les textes disent d'ailleurs dans la fin du Pentateuque que tu choisiras la vie, et je pense que c'est une belle conclusion. Tu choisiras la vie. Je n'ai pas juste une petite blague. J'ai vu une amie un jour qui revenait vers la pratique de la Torah, à qui j'avais appris qu'il faut donner un dixième de ce qu'on gagne pour les pauvres, pour les œuvres et tout. Et qui, après quelques mois, vient me dire, mais je ne comprends pas, je ne m'en sors pas financièrement. Et pourtant, je gagne bien ma vie, mais je n'y arrive pas. Alors, j'étais étonné, puis elle revient sur le sujet quelques semaines après, puis je me demandais, tu fais quoi exactement? Tu donnes combien? Ben, je donne 9 dixièmes de ce que je gagne, comme tu m'as appris. Tu choisiras la vie.
Oui, alors moi, je reviens toujours à l'assistance de la gourde, parce que vraiment, elle frappe les esprits. Et alors, ça me pose une question, justement des questions. Dans l'Évangile, on est toujours très troublé par cette question des vierges folles et des vierges sages. Je ne sais pas si vous connaissez l'épisode. Il y a les vierges... Oui, les vierges sages donc, qui ont apporté des réserves d'huile pour mettre dans leur lampe, pour attendre le maître, l'époux. Et puis il y a les vierges folles qui ont oublié. Et au dernier moment, quand on annonce l'arrivée du maître, eh bien les vierges sages allument leur lampe, elles étaient toutes endormies. Elles allument leur lampe et elles vont auprès de l'époux qui arrive. Et les gens disaient, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, au lieu de partager, elles ont dit, bon, on pourrait donc en acheter chez les marchands. Nous, on a ce qu'il faut, on y va. Alors, si vous pensez au bonhomme avec sa gourde, qui a dit, moi, j'ai de quoi boire, et ça ne me concerne pas, quoi. C'est un peu pour dire que, je n'ai pas du tout sacrifié, c'est pour faire. C'est bien, je savais qu'elles étaient aptes, avec leur lampe, à entrer dans la salle du dessin, et elles savaient que les autres arriveraient trop tard, elles n'auraient pas sa mort, quoi, elles n'auraient pas accès au banc.
Oui, ça interpelle. On a un vaste programme et ça mérite une deuxième soirée. Oui, c'est magnifique. C'est un texte magnifique et qui demeure une discussion. Donc ce soir, je veux rester sur cette ouverture qui appartient à chacun.
Si on n'entend pas la question, là, ce qu'il faut savoir, c'est si vous voulez réécouter, si d'autres personnes veulent réécouter, on ne comprend pas la réponse, on a entendu la question. Et donc, si elle n'est pas posée dans le micro, on ne comprendra pas la réponse. Cette phrase de conscience de mon ignorance, et
j'ai trouvé très, très, très difficile. Ça me dépasse et je vois la profondeur de la pensée juive. Et ce que je n'ai pas compris, mais ça demande une deuxième conférence, si vous pouvez venir en
faire plusieurs. Ce que je n'ai pas compris, c'est quand vous dites l'éternel. Là, j'avais écrit. L'éternel bénit. Non. L'éternel respecte l'union même dans le mal. Alors là, je suis dépassée. Je veux bien que vous reveniez plusieurs fois nous apprendre à avancer dans cette pensée qui n'est pas simple. Mais je sens qu'il y a une profondeur qui m'échappe. Et je suis bientôt comme qui était au fond de la baleine. Je suis dans un trou. Est-ce que je vais remonter avec Jonas? Merci.
Je vous remercie. Alors, non, je vais vous répondre. Évidemment, Dieu réagit et Dieu punit. Mais Dieu ne tue pas les hommes. Il les éparpille, il les disperse. C'est sa punition. Évidemment que Dieu ne respecte pas une union vers le mal. Mais une union en tant que telle est quelque chose qui force une telle réaction. Ne va pas provoquer l'anéantissement de la terre une seconde fois, alors qu'on est dans la même péricope. Dieu ne va pas détruire les hommes, mais va les disperser. Les hommes seront punis, évidemment. Il n'y a pas d'union vers le mal qu'on va déifier, loin de là. On s'entend, bien sûr. Par contre, comment Dieu va réagir, on ne va pas anéantir. Parce que l'union est quelque chose qui est fondamental. L'unité, qui est notre recherche à tous, l'unité est fondamentale. Et quand on voit cette union dans cette génération de Dora Palaga, qu'on raconte à la fin de l'histoire de Noé, eh bien, c'est une union extraordinaire. Ils sont en train de projeter des choses terribles, et Dieu va les disperser. Il va les disperser par les langues. Comme quoi, si on parle, comme disait Coluche, il y a ceux qui parlent français, puis il y a ceux qui parlent étranger. Mais on ne parle pas tous le même étranger, c'est ça qui est embêtant. Alors déjà, ça nous disperse, ça nous éparpille. C'est une forme de punition, bien entendu.
Je crois que c'est pas une forme de punition. Au contraire, les hommes étaient par les mêmes. Donc c'est une bonne action de la part de Dieu d'avoir fait ça.
C'était pour répondre à madame. Vous êtes dans un ouvrage qui est passionnant d'ailleurs, qui permet à chacun de reconstruire à son niveau. Il y a un texte qui nous dit passement à l'assaut, puis lui donne la truelle, et enfin bon, il y a toute une histoire là-dessus qui c'est passionnant, mais je dis, de prime abord, il faut rassurer par rapport à votre intervention, évidemment, il n'y a pas de bonheur dans une union dans le mal. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on peut faire dans l'union des hommes. Moi-même, quand j'ai fait l'expérience il y a 25 ans de cela, quand j'ai arpenté les stades de foot à Strasbourg, parce que je suis natif de Strasbourg, j'allais au stade le samedi soir et avec les copains, on hurlait des bêtises. Puis quand on les hurlait, ça faisait un effet de poudre extraordinaire, ça fait boule de neige. Vous êtes sûr qu'en bout de deux secondes, tout le public fait la même bêtise que vous. Pas nécessaire d'être un tribun à Munich pour soulever les foules, mais on a cette image dans la tête. Mais j'ai moi-même fait l'expérience dans un stade de foot en étant gamin. C'est génial, mais ça fait très très peur. Mais l'union est une force, c'est sûr. De toute façon, les imbéciles ne sont jamais de ça. Hein. Quand on parle des impies le soir pascal,
dans la Haggadah, la fameuse, fameux texte que nous lisons le soir de Pessah, on parle des réchaïs, des impies, on parle toujours d'eux au pluriel. Vous remarquerez, vous prendrez dans la rue, ce qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, la racaille. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Parce que nous avons tous une part mécréante, une part de générosité. On est ces quatre fils que cite la Haggadah à la fois. Mais c'est quand même étrange que le texte nous parle des impies au pluriel. Ils sont toujours minimum deux. Enfin, on ne va pas faire l'éducation ce soir. Hein. C'est pas le plus de la fin.
Merci. Moi, justement, juste avant que Gabriela intervienne, j'avais noté, je suis tout à fait d'accord avec son intervention, je ne partage pas votre vision, enfin, le terme punition m'a pas du tout convaincu, au contraire. Je crois que ça aurait été une punition, justement, de laisser le peuple dans le langage unique, dans la pensée unique. En les dispersant, il les a conduits à la vie. Il les a conduits à se différencier. Et là, on retrouve les deux termes du Resed. C'est la manifestation de la bonté de Dieu qui, si il n'avait pas manifesté sa bonté de cette manière-là, aurait conduit à l'abomination, à cette pensée unique, à cette uniformité qui détruit. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, par contre, le regard que je porte, mais je ne dis pas du tout que c'est le regard qu'il faut porter sur les dix vierges, je n'ai pas le même que celui de Gradiella, parce que en fait, pour moi, en fait, il ne s'agit pas d'opposer ni de comparer les cinq qui sont qualifiés de sages aux cinq qui sont qualifiés de folles, mais de nous interpeller toutes et tous, à savoir, là encore, j'étais heureux que vous citiez ce verset qui est pour moi le plus important de toute la Bible, et Bible hébraïque, donc que nous on appelle premier ou malheureusement Ancien Testament et Second Testament, à savoir Deutéronome 30-19, que je cite très souvent ici, « Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, ou le bien et le mal, choisis la bénédiction afin que tu vives. » Et c'est extrêmement important. Et en fait, l'interpellation dans la parabole des dix vierges, l'interpellation, enfin, moi je le ressens comme ça, qui nous est adressée, c'est « Choisis la vie en vérifiant que tu as une provision d'huile et non pas une menace pour ceux ou pour celles, en l'occurrence, qui oublieraient, parce que je suis sûr que là, il y aura leur effet positif. Et puis, dernière chose que je voudrais dire, j'étais très heureux de l'intervention de Jean-Albert tout à l'heure, parce que moi aussi, je suis toujours chagriné par... alors, je précise pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, que je ne veux pas dire que je suis chrétien, je voudrais l'être, mais je ne suis pas juif, même si je me sens très très proche des juifs. Mais j'ai fait toujours peur d'entendre la notion de troisième voie, ou penser que le christianisme a fait quelque chose qui n'existait pas avant. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord. Justement, le judaïsme n'a pas entendu le christianisme pour dire « choisis la vie ». Et Elisabeth a cité à juste titre le père Maximilien Kolb, mais on pourrait citer aussi des juifs qui se sont sacrifiés, c'est pas un terme qui me convient, mais quand on voit ce qu'a fait la petite Eti Ilsoum, qui est très souvent citée ici, elle ne s'est pas sacrifiée pour les autres, elle aurait pu échapper à l'extermination, elle était parfaitement confiante, mais elle n'a pas choisi la voie du sacrifice. Elle a simplement choisi, à mon sens, la voie de la vie en se tenant auprès, elle le dit d'ailleurs dans le journal d'une vie bouleversée, je crois, elle a choisi de se tenir auprès de ces jeunes filles juives pour qu'elles restent le plus possible dans la vie tout en sachant très bien qu'elles allaient vers la mort. et c'est différent. Moi, le terme sacrifice me fait toujours peur. Et puis, on a quelqu'un ici. Comment ? En plus, voilà, tout à fait. Et puis, je pense qu'il faut dire aussi, bon, là, c'est une chrétienne, on peut le dire aussi, il y a quelqu'un dans la salle, Jeannette Brousse aussi, qui ne s'est pas sacrifiée, elle a aussi choisi la vie pour que des Juifs vivent.
Merci beaucoup. Que je salue d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années à Tonon. En effet, c'était... Je vous rejoins complètement par rapport à l'écriture de ma boule, mais ça mérite une soirée supplémentaire. Rechercher le bien-être d'autrui, quoi qu'il arrive, c'est le chesed, et c'était l'objet de la soirée, et c'est sûr que dans l'histoire de ma boule, ça permet à chacun de recouvrir une identité propre et de favoriser justement, comme dire le possible, les rencontres. Comme ce soir.
Mais c'était bien, en tout cas, c'est pas. Moi, le recette, je ne le connaissais que dans sa version positive. Et c'était extrêmement important que vous nous fassiez découvrir l'autre face. Parce qu'on peut dire, et maintenant je le regarderai d'une autre manière,
Je fais beaucoup de vélo, et puis comme je reste 3h30 sur mon vélo, j'aime bien m'occuper, et puis je récite un peu les lettres hébraïques ou les 17 érotes, j'ai travaillé un petit peu sur mon vélo pendant tout le temps. Et maintenant, quand je penserai au recette, je le verrai avec ces deux faces. Parce que c'est vrai que quand, et je n'avais pas du tout vu sous cet angle-là, un recette qui se pervertit conduit à l'abomination. Et j'étais très heureux aussi que vous nous montriez la... J'allais vous poser des questions, mais en fait, vous l'avez cité au moins en creux, à savoir, on peut se poser la question de savoir si Jonas n'a pas choisi de fuir parce qu'il était convaincu que s'il adressait le message que Dieu lui avait confié, il y avait risque, de son point de vue, que le peuple de Ninive se convertisse, que Dieu fasse preuve de bonté, ce qui aurait été, à ses yeux, et on retrouve encore les deux phrases du recède, aux yeux de Jonas, une abomination.
Oui, c'est la lecture de Ciboli. Oui, c'est passionnant d'être.
Y a-t-il une dernière question ? Pour ne pas faire rentrer Eric trop tard non plus. Peut-être, est-ce qu'il y a encore des personnes qui veulent exprimer quelque chose, questions ou pas d'ailleurs, ou commentaires? Ah oui, d'abord Céline, bien sûr.
Ce que je retiens beaucoup ce soir, c'est ce lien entre l'amour et la responsabilité. Dieu nous appelle à l'amour du prochain. Et en même temps aussi, il nous appelle toujours à la responsabilité. Et que l'un et l'autre est lié ensemble. Et qu'il n'y a pas d'amour sans responsabilité de ma vie et sans me sentir aussi responsable de l'autre. Puisque vous aviez cité le Talmud tout à l'heure, hein, je pense à cette phrase du Talmud qui ressemble à ce que vous avez dit. Si tu réponds pas de ta vie, personne ne pourra répondre à ta place. Mais si tu ne réponds que de ta vie, répondras-tu vraiment de ta vie? Donc là, le Talmud nous éclaire bien là-dessus. Hein. Donc ça veut dire que je suis appelé à répondre de ma vie, et je ne peux pas aimer l'autre si je n'ai pas quelqu'un qui répond de ça. En même temps aussi, on nous révèle que la seule réponse de ma vie, hein, être responsable, c'est répondre, hein, répondre devant les autres de ma vie. Si je ne réponds pas, si je ne réponds que de ma vie, je ne réponds pas de ma vie. Il semble que là, c'est très important. Parce que quand on disait tout à l'heure le sacrifice dans l'évangile, c'est le don de sa vie. C'est pas la souffrance, le sacrifice. Il y a une souffrance, si, mais une souffrance qui gagne l'amour. La seule souffrance, c'est celle que l'amour fait être. L'amour Il y a toujours une souffrance, hein, mais ce n'est pas la souffrance qui a valeur en elle-même. Enfin, la souffrance, ce n'est pas le sacrifice qui a valeur en lui-même, c'est la conséquence de l'amour. Donc, ça veut dire que si je réponds de ma vie, ça veut dire aussi que je vis un don de ma vie aux autres, aussi bien. Et alors là, je pense à la parabole du bon samaritain, dans l'évangile. La parabole du bon samaritain, ça répond à une question que pose le docteur de la loi. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton côté de l'homme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, hein, question. Alors, il ne pose pas la question de dire comment on va aimer Dieu, hein, Dieu, on s'arrange toujours avec lui. Hein. Mais il pose la question, qui est le prochain? C'est ça toute la question. Et là, vous avez bien dit d'ailleurs que l'amour de Dieu se concrétise et se réalise dans l'amour du prochain. On le vérifie. Mais si nous regardons le bon samaritain, le prochain qui sait, c'est pas l'autre. Le prochain, c'est moi. Qui a été le prochain de cet homme? C'est celui qui s'est fait proche de cet homme. Et se faire proche de cet homme, ça rejoint un peu ce que le Lévitique dit, hein, ce que vous avez dit. Hein. Et se faire proche de cet homme, c'est le sentir responsable de cet homme. Et là, dans la parabole, il est responsable. Il va être avec l'argent, je repasserai. Mais en même temps aussi, il laisse l'espace de responsabilité à l'autre. Il ne se substitue pas. Hein, à l'homme qui est là couché, hein, c'est-à-dire il donne tous les moyens pour que l'autre accède aussi à sa propre responsabilité. Alors moi, il me semble que ça, c'est caché, c'est assez fondamental, hein, parce que quand on parle d'amour, vous le disiez tout à l'heure aussi, c'est très ambigu. Et donc, et il me semble qu'il y a deux choses dans la Bible auxquelles Dieu nous appelle, c'est d'abord la responsabilité, et la responsabilité qui nous conduit à une véritable liberté. Hein? D'ailleurs, il y a des décisions qu'il n'y a que nous qui puissions prendre. Je vous cite tout à l'heure, j'ai mis devant toi la vie et la mort, l'eau et le feu, etc. Voilà. Et il ajoute bien, c'est à toi de choisir. Personne ne pourra choisir à ta place. C'est vrai pour la foi aussi, hein. La foi, personne, on ne peut pas croire par procuration. On ne peut pas dire que c'est l'autre qui va répondre à ma place de la foi. Il n'y a que moi. Et là, la parabole des vierges sages et des vierges folles, c'est ça. Hein, on est devant la foi de la venue du Christ, hein, dans la parabole, il y a quelque chose qu'on ne peut pas partager, qui n'est qu'à toi, et qui est ta responsabilité. Et c'est à partir de ta responsabilité, alors, que tu vas entrer dans l'amour du prochain. Enfin, voilà un peu ce que ça réveille.
Merci beaucoup. Vous m'accordez des minutes?
5.
J'ai des petites histoires qui traversent l'esprit dans le Talmud et qui rejoignent ce que vous dites. On raconte aussi dans le Talmud qu'on ne demande pas à Zouche, il s'appelle comme ça dans le texte. On ne demande pas à Zouche d'être Moïse, mais on demande à Zouche d'être Zouche. On ne demande pas à Eric d'être Moïse, mais on demande à Eric que j'étais comparant en tant qu'Eric. Voilà, les enfants sont doués mais non développés, et c'est de ça dont il s'agit. Il faut savoir qui nous sommes, et d'ailleurs les maximes de nos pères, il est au Chacham à Makir et Krokomo, qui est sage, qui est Chacham, la sagesse par excellence, c'est celui qui sait où est ça. Place. C'est d'ailleurs notre quête, hein, de toute la vie, savoir ce pourquoi on est fait. On raconte une petite histoire en traité d'Avodah Zarah d'un homme qui avait prétendu avoir connu toutes les prostituées de la planète. Et puis on lui a dit, tiens, voir, il y en a une en futur que tu ne connais pas, qui est de l'autre côté de la rive, il faut absolument que tu ailles la voir. Puis il y va et puis sur le chemin est long, il nous raconte, ça se trouve dans le traité sur l'idolâtrie de la Zarah.
Et sur le chemin, bon, il y a une imperfection, et puis il se rend compte de ce qui lui arrive, et là, il veut se repentir, et puis parce qu'il n'a qu'agi dans le faux toute sa vie, il est persuadé que sa vie est. Cette vie est foutue. Et il se met à hurler, et alors il demande au ciel, 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 sauve-moi, sauve-moi. Parce que il voit que il n'a aucune issue à ce qu'il a fait. Il dit, sauve-moi le ciel, et puis le ciel ne répond pas. Et puis il hurle, il ne peut pas hurler au ciel, donc il hurle aux montagnes, il demande des montagnes, montagnes, sauve-moi, sauve-moi, et puis les montagnes ne répondent pas. Il fait la même chose avec l'eau, il fait avec toute la nature qui l'entoure, et puis il voit que la nature ne répond pas, alors qu'il se recroqueville, il se met en position comme fœtale, hein, comme de l'œuf, là. Il dit le texte, c'est un merveilleux texte. Ça aussi, ça mérite une soirée entière. Il se referme sur lui-même et meurt. Il a tellement hurlé que sa nechama, que son âme sort de lui et meurt, et une voix céleste crie que l'individu est invité à rejoindre le jardin d'Éden, le monde futur. On ne comprend pas comment cet homme, ce mécréant qui a fait couler tout ce qui est plus abominable toute sa vie peut mériter le monde futur. C'est ce réflexif, là. Ça peut retrouver, non pas de faire appel aux autres, mais enfin commencer à se regarder dans un miroir, de se regarder, de faire appel à lui-même, déjà pour commencer, comme on dit à l'hôtel, etc. Mais le ciel ne va pas t'aider si tu ne fais pas le premier pas. Et c'est de ça dont il s'agit. Cet homme se replie sur lui-même, et c'est seulement là que la voix céleste, cette batcole, crie, il est invité à nous rejoindre. Elle est extraordinaire, cette histoire. Et puis j'avais encore une autre histoire hein, que j'avais. Bon, j'en ai tellement, mais une autre histoire de Vitamnul, qui raconte que les êtres humains sont arrivés tous à, comme on dit en yiddish, avec leur pecleur. Avec leur valise, les êtres humains sont arrivés chez Dieu, on ne comprend pas, moi j'ai une valise avec des clapperliches, mes soucis sont insupportables, importables, je ne peux plus les soutenir, il y en a marre, j'ai des soucis à ce niveau-là, ici et là, ce n'est pas possible, j'aimerais bien changer de vie. Et puis il y en a un autre qui arrive et qui pleure aussi, puis le troisième, quatrième, et puis Dieu dit, bon, vous savez quoi? Venez tous, faites un gros tas de vos pecleurs, comme on dit, en yiddish, au milieu de la place, et puis vous retournez, puis chacun prend un pecleur au hasard et repart. Mais on raconte le Talmud, non. Non, je veux mon sac à moi. Moi, je sais ce qu'il y a dedans. Voilà, je voulais une dernière boutade avant de clore de la soirée. Merci.
Nous vous remercions, Eric, pour cette leçon. Je pense que c'est une grande leçon. Sans doute, certains y réfléchiront encore beaucoup, d'autres peut-être moins, et puis peut-être, oui, il faudrait certainement qu'on ait beaucoup plus de cours comme cela, parce que ça nous permettrait de modifier notre état de conscience, notre état d'esprit, de comprendre autrement. Ça vient pour ceux qui arrivent de temps en temps, ou même souvent, d'aller voir le grand rabbin Engage à Genève le lundi soir, hein, je vous le propose toujours, hein, parce que c'est vraiment de grandes leçons de vie, surtout de vie.
Moi, je voudrais remercier Eric pour une autre chose, parce que c'est d'avoir parlé du livre de Jonas. Parce que s'il est très important dans le judaïsme, dans, pour certains chrétiens, il est vu comme un livre un peu puéril. Et c'est dommage parce que je suis très heureux de l'intervention du père Barthélemy, parce que pour moi, le livre de Jonas, il ne fait pas l'éloge de l'irresponsabilité, au contraire. On voit même Jonas qui fait preuve de responsabilité, parce qu'à un moment, il demande d'être jeté par-dessus bord pour que les autres vivent. Donc, il choisit la vie, au moins pour les autres, et ce serait très beau. Et ensuite, le roi de Ninive, lui, va prendre la responsabilité du repentir et de demander à son peuple de repentir. Puis Dieu aussi a fait preuve de responsabilité. Il aurait pu laisser les gens de Ninive laisser à l'abomination. Pour moi, le livre de Jonas, c'est le livre de la responsabilité.
Merci, Norbert. Nous allons dire au revoir à Eric Ackermann, parce qu'il doit rentrer. Vous pouvez, on n'en a pas pour très longtemps, mais on a encore, effectivement, si vous voulez écouter les quelques... Bien. Alors, je me permets... comme toujours, j'ai quelques informations à vous donner. D'abord, sous le signe de l'amitié, je voudrais vous lire très vite un petit texte, parce que je pense que ça intéresse. Sous le signe de l'amitié judéo-chrétienne.